Bonjour mes frères et sœurs, ça me fait tout drôle de me retrouver parmi vous, et en tous les cas, puisque nous sommes encore dans cette période où c'est possible de présenter les vœux, mon épouse et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs vœux dans le Seigneur, souhaitant que la grâce et la paix du Seigneur et sa plus riche bénédiction soient votre partage, et que le Seigneur puisse se glorifier au milieu de cette assemblée, bénisse aussi le pasteur et son épouse, et qu'ainsi la gloire de Dieu soit manifestée parmi vous. Je vous propose d'ouvrir la parole du Seigneur et nous allons faire plusieurs petites lectures. La première dans le livre de Josué, au chapitre 24. Nous lisons au verset 11. Josué 24, verset 11. « Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éthiens, les Girgasiens, les Séviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Amen. » Nous tournons juste une ou deux pages pour arriver au livre des Juges, et au chapitre 1er, nous lisons verset 19. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Verset 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéam et des villes de son ressort, de Taanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. On pourrait continuer encore comme ça, mais nous allons arrêter là pour aller dans le Nouveau Testament. Et je vous propose de lire dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Puis un dernier passage, une dernière lecture que nous faisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir laissé ta parole. Chaque jour que nous plongeons nos regards en elle, nous découvrons en elle tout ce dont nous avons besoin pour marcher d'une manière digne de toi. Mes frères et sœurs et moi-même, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as arrachés à ce monde, à ce pouvoir du péché. Tu as fait de nous tes enfants. Et si le monde ne nous reconnaît pas comme tel, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Mais nous te connaissons et nous te louons, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nous sommes tes enfants. Aussi, je te prie, aide-nous dans ces moments de méditation de ta parole, et que ce soit un bénéfice pour tous. Seigneur, nous te le réclamons de tout notre cœur et dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer par vous dire, mes frères et sœurs, que quand nous passons du dernier chapitre du livre de Josué au premier chapitre du livre des Juges, il y a en évidence la dégradation spirituelle de ce peuple d'Israël. Et nous sommes frappés de voir avec quelle rapidité ce peuple qui avait connu la démonstration de la puissance de Dieu, qu'il avait libéré d'abord de l'Égypte, puis qu'il avait conduit dans le désert en accomplissant des miracles extraordinaires en sa faveur, ce peuple-là s'est détourné de la voie de Dieu, a accepté des compromis, et en acceptant ces compromis, s'est placé dans une situation où Dieu ne pouvait plus le secourir. Quand on lit ce que Josué déclare au chapitre 24 de son livre, il affirme que Dieu lui-même a envoyé les frelons pour délivrer Israël des attaques de ses ennemis. Et Dieu précise, attention, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance, mais c'est vraiment parce que le bras de l'Éternel a été à l'œuvre. Et ce peuple est bien obligé de reconnaître que Dieu a fait de grandes choses pour lui. Mais il y avait précisément quelque chose à bien retenir et à ne jamais oublier. C'est qu'il devait absolument livrer, je dirais par interdit, tous ceux qui étaient les partisans d'un Dieu qui n'était pas l'Éternel et qui, vivant dans l'iniquité la plus totale, était sous le coup du jugement et de la condamnation de Dieu. Mais la Bible nous révèle qu'au lieu d'obéir à Dieu, eh bien, le peuple a passé des compromis avec les personnes qui étaient là dans ce pays de Canaan. Et j'ai arrêté la lecture parce que nous aurions pu continuer assez longtemps pour découvrir que toutes les tribus, pour ainsi dire, eh bien, ont désobéi à Dieu et ont passé comme cela des arrangements avec l'ennemi. Dieu ne pouvait plus être pour eux favorable. Et quand on lit le livre des Juges, on est vraiment étonné de voir tout ce qui se passe au sein de ce peuple qui a passé des compromis avec l'ennemi. La Bible nous révèle que dans cette période-là, il n'y avait pas de roi en Israël. En fait, il y en avait un, mais qu'il méprisait. Un, mais auquel il ne se soumettait pas. Un, auquel il n'obéissait pas. Et ce roi, bien sûr, n'était pas un homme qui pouvait établir son autorité sur eux, mais c'était le Dieu Tout-Puissant qui, jusque-là, les avait conduits, dirigés, bénis, secourus. Et comme ils se sont soustraits à son autorité, Dieu alors les abandonne. Et quand vous lisez quelques passages de ce livre des Juges, vous vous apercevez que Dieu lui-même a fortifié le bras de certains ennemis pour maintenir ce peuple-là dans une situation désastreuse. Et on voit que c'est l'ennemi qui triomphe parce que Dieu le permet. Alors, si quelqu'un avait écrit l'histoire à ce moment-là, comme par exemple un journaliste peut le faire, ils auraient trouvé toutes sortes de raisons géopolitiques pour expliquer leur défaite. Mais en réalité, c'est que dans les coulisses, Dieu était à l'œuvre pour leur résister. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, cela nous apprend, mes frères et sœurs, qu'il y a une tendance naturelle dans le cœur de l'homme de se détourner, de se soustraire à l'autorité divine et puis de dévier, de sortir de la voie qui a été tracée par le Seigneur, de s'éloigner de ses commandements, de s'éloigner de l'obéissance à la parole de Dieu et, ce faisant bien sûr, de tomber sous le coup du jugement divin. Et c'est comme cela que l'on peut expliquer, par exemple, que des dénominations entières ont commencé avec le feu, le zèle produit par le Saint-Esprit, et puis à peine quelques générations plus tard, peut-être seulement deux ou trois générations plus tard, ils sont devenus ce que les fondateurs ne reconnaîtraient même pas. Mais ce qui est vrai pour certaines dénominations est également vrai pour certaines églises. Et il nous suffit de lire, par exemple, les lettres qui ont été adressées par Jésus au travers de Jean dans le livre de l'Apocalypse à ces sept églises de l'Asie pour se rendre compte aussi de la dégradation qui a suivi pourtant un temps de bénédiction formidable. Je voudrais simplement vous parler juste de cette église d'Éphèse, de laquelle il est dit des choses tellement merveilleuses, qui avaient une telle autorité pour défendre la sainte doctrine, qui savait aussi reconnaître les faux apôtres, combattre contre le mensonge, contre l'iniquité. Et puis, à peine quelques générations plus tard, Jésus, au travers de Jean, est obligé de leur dire « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. » Et je ne vais faire abstraction des autres églises, parce que vous connaissez cet enseignement aussi bien que moi. Je remarque simplement une chose, c'est qu'il y a là une tendance naturelle contre laquelle nous devons nous mettre en garde les uns et les autres. Alors, une fois que cet avertissement est donné, alors se pose la question, et alors, que faut-il faire? Comment faut-il agir? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Car ce qui est vrai pour une église est vrai aussi des fois dans le cadre familial. Je ne sais pas si certains, comme moi, ont connu cela, mais en tous les cas, moi je me souviens dans mon adolescence, ma jeunesse, d'avoir vécu et également été en communion avec des frères et sœurs dans une assemblée composée de plusieurs centaines de membres, où il y avait aussi beaucoup de familles entières qui étaient là pour glorifier le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Puis aujourd'hui, on se rend compte combien il est difficile de retrouver dans des églises des familles entières pour louer le Seigneur, pour le suivre, pour obéir à sa parole. Ce qui est vrai pour les familles, c'est vrai aussi pour les individus. J'ai été surpris parfois lorsque, après de nombreuses années, j'ai pu retrouver le contact avec certains individus avec lesquels il y avait pu y avoir une certaine collaboration, même dans le service de Dieu, et surpris, étonné de voir comment il y avait dans son cœur, dans la vie de ce personnage, l'acceptation de choses qui étaient absolument contraires à la parole de Dieu. Et nous sommes surpris parce que il y a eu comme une dégradation qui s'est faite petit à petit, comme cela, et on finit par accepter certaines choses que l'on trouvait autrefois vraiment déplorables et que jamais on n'aurait pu accepter dans le cadre de la vie d'une église. De cela, eh bien, je pourrais en parler longtemps et je vais m'arrêter là, simplement vous dire, pour que ça ne se produise pas, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, le Seigneur nous a attirés à lui, nous a sauvés. C'est avec beaucoup de reconnaissance que ce matin, j'ai pu vous entendre les uns et les autres, comme d'ailleurs dans le passé, louer le Seigneur en disant « Tu es l'auteur de mon salut, tu es mon refuge ». Certaines lèvres ont prononcé cela. « Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre libérateur. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a sauvés ? Quel est le but ? Le but même du Seigneur quand il est venu ici-bas sur la terre, c'était quoi ? Il y a eu une sorte de dialogue dans le ciel qui nous est transmis par l'Écriture. Et au travers de ce dialogue, on peut entendre le Fils dire au Père, dans le livre, il est question de moi. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. alors voici, je viens pour faire ta volonté. Quel était le but du Seigneur ? C'était de faire la volonté de son Père. Quel doit être notre but maintenant ? C'est de faire la volonté de Dieu. La Bible dit que nous avons été justifiés par le Seigneur. Et l'action de son Esprit a été telle dans notre vie et dans notre cœur que nous sommes devenus ses enfants. Et à partir du moment où nous sommes ses enfants, eh bien, il est dit justifiés parce que nous avons été prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et le but que nous devons poursuivre ici-bas sur la terre, c'est cela, être semblable à l'image du Fils de Dieu, semblable à Jésus-Christ. Et pour ce faire, comment est-ce que Dieu agit? Eh bien, il y a un passage, moi, qui m'émeut et puis en même temps me donne un courage, une force extraordinaire. C'est un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Ah, voilà une église aussi, dans laquelle petit à petit s'est infiltré un tas de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Vous le savez pour l'avoir lu aussi bien que moi, il y avait des choses étranges, beaucoup d'orgueil, des disputes, de la jalousie, de la corruption, de l'impureté. Et je passe sur les détails qui caractérisent, par exemple, un certain personnage. Et Paul aurait pu, à ce moment-là, parler avec l'autorité apostolique qu'il avait, avec une certaine dureté. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et moi, je me dis, mais c'est vrai ça. Je suis devenu par sa grâce, vous êtes devenu par sa grâce, le temple du Saint-Esprit. Mais c'est stupéfiant cela. Vous imaginez, mes frères et sœurs, le Dieu qui a créé l'univers, qui a fait sa demeure en nous par son Esprit. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en Esprit. Il vit en nous, malgré ce que nous sommes par nature, car même sauvés, il faut que nous sachions que la nature humaine est là. Elle sera là jusqu'à la fin. Alors, permettez-moi de vous dire cela. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit, mais malheureusement, il y a un colocataire. Il s'appelle, en grec, je vais vous donner le nom, Sarx, S-A-R-X, ce qui est traduit dans le Nouveau Testament au moins 150 fois par la chair. Et voyez-vous, la chair, elle a des exigences qui sont absolument contraires aux exigences de l'Esprit de Dieu. Il y a une lutte, il y a un combat. Et je ne vous parle pas ici, ce matin, de la lutte que nous devons mener étant revêtus des armes spirituelles que vous connaissez, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, qui nous permettent quoi ? D'affronter les ruses de l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire l'ennemi extérieur, et qui ne nous laissera jamais tranquilles jusqu'à la fin. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a été vaincu. Il revendique des droits. Mais si nous regardons au Seigneur, il l'a vaincu et il nous rendra vainqueurs. C'est la raison pour laquelle Paul, dans son épître aux Romains, dit ceci, « Bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » C'est une réalité. Nous avons chanté « À toi la gloire, à toi la victoire. » Mais c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, mais je reviendrai là-dessus dans un instant. La réalité, c'est ça, c'est que la chair Elle revendique certaines choses. Vous voyez, j'ai noté ceci. Le seul problème, c'est justement qu'elle parle de la manière suivante. Je veux que tout se fasse à ma manière. Je veux ce que je veux et tout de suite, s'il vous plaît. C'est pas le combat que vous avez? Elle a des exigences terribles. Nous savons ce qu'est la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul parle de cet autre combat, qui n'est pas le combat avec l'ennemi extérieur, mais le combat avec l'ennemi intérieur, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et lui-même parle de ce combat qu'il connaît, et il en parle très ouvertement. Et il dit à un moment donné même, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il y a un cri de victoire quand même. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Oh, voyez-vous, pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné? Nous avons eu l'occasion de le dire tellement de fois ici. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de placer Christ sur le trône de notre cœur, afin qu'il règne dans notre vie, qu'il règne en nous. Alors, il peut y avoir, évidemment, cette action terrible, cette action qui vient de la chair. D'ailleurs, comment est-ce que s'exprime Jacques quand, dans son premier chapitre de sa lettre, et au verset 14, il dit « Chacun d'entre nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et il ajoute « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Et Pierre reprend un petit peu cet enseignement-là. Et dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 11, il dit « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Et tous les hommes de Dieu, même les plus excellents, ont connu ce combat, ont connu cette lutte. Et Jésus a paru et vécu sur la terre, non seulement pour expier le châtiment de nos péchés, mais également pour inverser la forteresse de la chair dans notre vie actuelle. Car le salut de Dieu, le salut complet, c'est pas simplement de proclamer et de dire que nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. Ça, c'est un des points du salut qui s'appelle la justification. Délivrance de la condamnation du péché. Mais il y a un deuxième aspect, c'est la délivrance de la puissance du péché, et cela s'appelle la sanctification. Sans laquelle, est-il dit dans l'Écriture, nul ne verra le Seigneur. Mais il y a un troisième aspect, et que nous connaîtrons quand Jésus va venir nous chercher, soit parce qu'il vient enlever son Église, soit parce qu'il va nous reprendre en passant par cette vallée qui est appelée la vallée de l'ombre de la mort, qui est redoutable pour tous ceux qui n'ont pas d'espérance, mais pas pour nous. Parce que, comme Paul, nous pouvons dire, mais pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Et voilà la troisième chose, délivrance de la présence du péché, et ça s'appelle la glorification. Le salut, c'est ces trois points-là. Justification, sanctification, glorification. Et si nous ne prenons pas en compte cela, alors nous allons continuer longtemps à patauger avec nos problèmes personnels. Et pourtant, Dieu met à notre disposition ce qu'il y a de meilleur, la puissance de l'Esprit par lequel nous pouvons être fortifiés dans notre être intérieur et vivre en vainqueur sous toute forme de péché. Voyez, la manifestation de la chair, elle est décrite au travers de ses œuvres dans l'épître de Paul aux Galates. Et vous connaissez certainement ce passage aussi bien que moi. Il est quand même redoutable. Il est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste, elle est longue et même elle n'est pas exhaustive car elle pourrait se continuer encore, c'est ce que dit Paul, et les choses semblables. Mais est-ce que vous avez remarqué que ça couvre trois secteurs particuliers? Il y a le domaine de la sexualité, et le domaine de la sexualité, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Puis ensuite, il y a le domaine religieux, l'idolâtrie, la magie, les divisions, les sectes. Et puis ensuite, eh bien, c'est les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et là, c'est les animosités, les disputes, etc., etc., la colère, tout cela. Et tout cela, bien, nous devons le constater. Voyez-vous, quand Paul présente ces choses-là, il ne les présente pas à des chefs de sectes qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Il n'est pas en train de présenter cela à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il présente ces choses à l'Église. Ça veut dire donc que c'est dans l'Église que ces choses-là peuvent se manifester. Alors, comment purifier l'Église? Certains pourraient le faire en disant, eh bien, puisque tu pratiques cela, attention. Pratiquer, c'est ça qui est grave. Tomber dans une de ces choses-là, ça c'est le partage de tous. Et qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Il y a une différence entre la pratique et une chute éventuelle. Imaginez un peu si nous étions tous condamnés parce qu'il y a eu juste un mouvement de colère ou une mauvaise pensée. Mais qui pourrait être là encore parmi nous ce matin? Qui pourrait subsister dans la présence de Dieu? Personne ne pourrait. C'est la raison pour laquelle, oui, j'ai aussi entendu la voix de l'Esprit ce matin pour rappeler que nous n'avons pas le droit de condamner l'Église. Parce que l'Église, elle, elle a été sous la grâce de Dieu. Et par contre, évidemment, si je me permettais de purifier l'Église par le vide, ça c'est facile. Tuer, ah, ça doit vous rappeler quelques-uns pour les plus anciens, un voyou, alors sort, va-t'en. Écoutez mes frères et sœurs, c'est ça le problème. Mais la réalité, c'est que Dieu veut travailler en chacun d'entre nous. Et je comprends davantage l'attitude de Paul dans une certaine circonstance quand il a dit « Mes petits enfants, pour lesquels je souffre comme tout à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est là notre rôle, c'est là notre devoir, c'est la responsabilité de chacun de travailler dans ce sens en nous soumettant à l'action de l'Esprit de Dieu pour que Christ prenne toute la place en nous et que nous soyons plus que vainqueurs. C'est la raison pour laquelle Pierre, et vous connaissez ce passage, je l'ai entendu dans la bouche de quelqu'un ce matin au travers de sa louange, sa divine puissance, dira Pierre, nous a donné tout ce qui contribue à la vie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il ajoute, faites donc tous vos efforts. Quand voyez-vous, quand nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, notre volonté est aussi régénérée. Et que se passe-t-il au niveau de notre volonté? Eh bien, des instincts nouveaux sont placés en nous et nous sommes attirés vers ces choses qui sont en haut et non plus vers celles d'en bas. Il peut y avoir le combat. Mais quand nous nous accrochons au Seigneur et que nous lui demandons, par ton esprit, fortifie-moi dans mon être intérieur, alors il va agir et me donner la victoire totale. Et voyez-vous, c'est cela qui est remarquable quand on lit la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je voudrais quand même vous dire, il y a deux méthodes qui ne marchent pas. La première méthode, c'est de passer son temps à analyser l'ennemi. Plus nous allons prendre en considération la chair, plus nous allons fixer notre attention sur son pouvoir, sur ce qu'elle fait, essayer aussi de comprendre pour peut-être d'une manière psychologique, réagir et puis me trouver dans la voie que Dieu attend de moi. Et plus je vais me rendre compte qu'elle est forte et que moi je suis faible. La deuxième méthode qui ne marche pas, c'est de chercher à améliorer la chair. C'est exactement ce qu'ont voulu faire les enfants d'Israël, ces tribus qui ont passé un compromis. Ils ne voulaient pas, dans le fond, triompher, les dévouer par interdit. Alors, ils ont passé un compromis, ils ont voulu donner une main d'association. Vous savez, quand on pense que finalement la chair, elle peut être domptée, eh bien, écoutez bien, mes frères et sœurs, jamais dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu veut utiliser la chair. Jamais. Pourtant, vous allez voir, dans un instant, je vais vous parler d'une sorte de combinaison entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'être humain. Mais en tous les cas, la chair, Dieu ne peut pas l'utiliser. Souvenez-vous, je crois vous en avoir parlé dans le passé. Regardez, l'histoire de Lazare nous révèle quelque chose. Il est malade, on avertit le Seigneur, on lui dit « Celui que tu aimes est malade. Dépêche-toi, viens !» Il reste encore 2 jours là où il est, jusqu'au moment où eh bien, Lazare passe de vie à trépas. Et quand il est mort, enfin, Jésus prend la décision. « Ah, allons !» Et les disciples sont étonnés. À quoi ça sert maintenant? Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jésus n'est-il pas allé avant? N'était-ce pas plus facile de le guérir avant qu'il ne meure? C'est plus difficile, me semble-t-il, quand même, de sortir quelqu'un de la mort que de guérir quelqu'un qui est malade. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Bien, je vais vous parler de cette manière un peu triviale, pardonnez-moi. Jésus ne voulait pas du vieux Lazare amélioré, guéri. Il voulait un nouveau Lazare, ressuscité d'entre les morts. Vous savez, ce que Dieu a mis en nous, c'est la puissance de la vie de résurrection de Christ. Je ne pourrai jamais triompher dans ma vie, mais lui, il le peut. Moi, je suis faible, mais lui, il est fort. Et chanter « À toi la gloire, au ressuscité, c'est bien !» Mais le divin ressuscité, comme cela nous a été rappelé, il est en moi, il est en nous. Et voyez-vous, c'est ça qui est presque un paradoxe. Dans la parole, d'un côté, nous ne pouvons rien sans lui. C'est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais de notre côté, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, et nous l'avons lu, de notre côté, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ces deux choses-là marchent ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous cramponner à lui pour marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir la volonté de la chair. Et permettez-moi d'attirer votre attention sur cette expression-là que nous avons trouvée dans l'épître de Paul aux Colossiens, où il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Pas de compromis avec eux. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il y a là un verbe paripotéo qui signifie marcher. Et c'est conjugué ici au temps présent. C'est une action continuelle, régulière. Autrement dit, on pourrait dire marcher de façon habituelle. C'est la façon habituelle de vivre. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, c'est une chose qui devient possible. Et voyez-vous, c'est aussi sous la forme de l'impératif. C'est pas une suggestion. C'est un ordre qui est donné de Dieu. Marcher. Qu'est-ce que c'est marcher? C'est me rendre compte, je suis sur un certain point, mais il y a un autre point où je devrais être. Alors je pars d'ici pour atteindre ce but-là. C'est ça, marcher par l'Esprit. Jésus est devant, il me montre la voie, il m'a montré ce qu'il est, il m'a montré comment lui s'est soumis à la volonté du Père. Et il dit, marche, marche, avance. Oui, il sait tout ce que nous sommes, il sait toutes nos faiblesses. Il sait que nous avons failli dans tel et tel domaine. Il le sait, tout cela. Mais grâce soit rendue à Dieu, il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il nous appelle. Et il dit, laisse-moi remplir ton cœur de la puissance de mon esprit, de cette vie de résurrection. Et alors, ce qui est impossible à toi, moi, je vais l'accomplir d'une façon glorieuse et merveilleuse. Et à partir de cet instant, eh bien, voyez-vous, mes frères et sœurs, au lieu d'aller dans la dégradation, on va aller en s'améliorant, mais pas par nos efforts, mais parce que l'Esprit de Dieu nous amène dans la voie de la perfection. Mon désir le plus cher, c'est que vous tous et moi-même, nous puissions être au bénéfice de cette action et que nous restions fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Les combats ne sont pas finis. Et j'aimerais vous dire, cette année, ça n'ira pas mieux que l'année dernière. Ben, vous auriez pu rester chez vous, frère Ferris. Oui, je sais. Mais voulez-vous, dans le monde, il y a une chanson qui dit « ça ira mieux demain ». Et moi, je vais vous dire « non, ça ne va pas aller mieux demain ». Mais nous avons une espérance glorieuse. Et même si ça ne va pas mieux dans ce monde, avec le Seigneur, nous pouvons être plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.